Alors, je vais prendre un passage sur Abraham. Alors, Abraham, vous savez qu'il est revendiqué par aussi bien les juifs, les chrétiens, que les musulmans, hein, puisqu'Abraham, voilà, est à l'origine de ces trois monothéismes. Alors, on va lire un passage dans Genèse 12. C'est, vous voyez, c'est le premier livre de la Bible, c'est la Genèse. Et au chapitre 12, nous avons déjà ce passage que je vais lire ensemble avec vous. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je bénirai ceux qui t'outrageront, et tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » C'est intéressant parce qu'Abraham, il s'appelait Abraham, quand Dieu l'a appelé à le suivre. Abraham veut dire père exalté, un père exalté. Et Dieu a changé le nom, et je crois que au moment du baptême, Dieu change le nom d'une personne, c'est-à-dire son identité. On ne s'appartient plus soi-même, on s'appartient à Christ. On appartient à Christ. L'appartenance passe de moi à Christ. Et il l'appelle Abraham. Et Abraham veut dire père de multitude. Voyez-vous, quand Dieu nous appelle à lui, il a un plan pour nous. Et ce plan, il veut le déployer et il va nous faire entrer dans une nouvelle dimension, dans un devenir, de quelque chose que lui tient dans sa main. Nous n'avons pas, naturellement, bien sûr, que nous venons dans ce monde. Nos parents apprennent à prendre soin de nous, ils nous protègent jusqu'à un certain âge, et ensuite, après, il faut prendre soin de soi. Mais un chrétien, il se confie dans le Seigneur. Bien sûr, il est responsable, parce qu'il reste un humain. Mais au niveau du sens de sa vie, il va se confier dans celui qui a un plan qui est supérieur, qui est au-dessus, et ce qu'on appelle du sens. Et les gens cherchent du sens. Alors, ils cherchent du sens dans l'amour. Sauf que l'amour, en français, on n'a qu'un seul mot, amour. Alors que dans la Bible, qui est écrite en grec, il y a trois mots, il y a eros, philéo et agapé. Et le mot agapé est utilisé quand on parle de l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui change les choses, parce que c'est un amour don, qui ne cherche pas soi-même à se servir. Nous cherchons à nous servir nous-mêmes. C'est obligé pour prendre soin de nous, soin de notre vie, etc. Mais quand on rentre dans la dimension du baptême, de cette confiance qu'on a dans ce Dieu qui est au-dessus de nous, qui nous dépasse et qui nous fait entrer dans une autre dimension, celle de notre devenir, eh bien là, nous faisons l'expérience de ce que quelqu'un qui nous conduit vers quelque chose de plus grand, de merveilleux, d'extraordinaire. Et vous verrez le témoignage de ces deux jeunes qui vous le diront, ils en ont fait l'expérience. L'Éternel dit à Abraham, voyez-vous, c'est un Dieu qui parle, et est à nous d'entendre. Et bien sûr, tant que nous n'entendons pas, ça reste un Dieu vague, un Dieu de religion, un Dieu plaqué, un Dieu... Voilà, mais ça, ce n'est pas notre conviction. Notre conviction, c'est nous croyons que le Dieu est celui qui nous a fait personnellement, qui nous connaît depuis toujours, et qui veut le meilleur pour nous. Et il nous parle. Et il dit, va, quitte ton pays. La première chose, c'est qu'il demande de quitter notre sécurité, quitter nos habitudes, quitter ce qui nous renferme sur nous pour aimer. L'amour, c'est se donner aux autres. Mais quand on donne, comme Dieu donne, comme il a donné son Fils, Jésus-Christ à la croix, eh bien, il y a un retour. Jésus a aimé le Père en retour. Et c'est cette dynamique de l'amour qui donne et qui reçoit dans lequel nous sommes en tant que chrétiens. Il dit ce matin, eh bien, Rachel et Andy, quitte ton pays, quitte tes habitudes, quitte ta façon de faire pour adopter celle que je vais t'indiquer. Celle parce que tu vas devenir quelque chose de plus grand que ce que tu as toujours imaginé. Tu vas rentrer dans une nouvelle dimension. Je te montrerai ce que tu dois faire. Alors, il y a un autre personnage qu'on connaît très bien aussi, c'est Pierre. Après Abraham, c'est Pierre. Des milliers d'années avant Pierre, eh bien, il y avait Abraham. Et Pierre, il a reçu aussi un appel. Pierre est appelé par Dieu pour fonder l'Église. Une aventure qu'il a totalement dépassée et qui poursuit l'œuvre d'Abraham, puisque nous entrons dans la dimension d'Abraham, dans l'Église, c'est dans la foi. Jean, dans Jean, c'est l'évangile, le dernier évangile de Jean, chapitre 21, verset 22, Jésus s'adresse à Pierre en disant « Si je veux qu'il, Jean, parce qu'il y avait Jean aussi à côté qui le suivait, qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Parce que Pierre était toujours préoccupé des autres. Hein. Il était quelqu'un qui était très empathique. Donc, il voulait savoir ce qu'il allait advenir de Jean. Mais, vous voyez, Dieu s'adresse nous personnellement. C'est un Dieu personnel. C'est un Dieu qui nous connaît. Il nous connaît depuis l'origine et il nous connaît la fin. Il connaît tout. Il connaît tout de nous. Il sait où on commence, où on termine. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et le Seigneur connaît Pierre et dit « T'occupe pas de Jean. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, ce n'est pas ton problème. » Et vous, quand on est avec le Seigneur, ce qui est important, c'est d'avoir cette relation avec le Seigneur qui va nous aider à aimer les autres. Ce n'est pas pour nous rendre plus centrés sur nous, c'est pour nous centrés sur les autres et que cela nous donne une nouvelle dimension d'amour. Au travers de cet amour que nous donnons, nous en recevons. Il dit, toi, suis-moi. Voyez-vous, le Seigneur, il a des paroles très précises vis-à-vis de nous, en disant, toi, je t'aime, toi, je t'appelle, toi, suis-moi. Et c'est pour ça, ce matin, il dit, Rachel, toi, suis-moi. Ne t'occupe pas de tout ce qui t'entoure, ne t'occupe pas des autres. Aujourd'hui, c'est l'alliance que toi, tu fais avec le Seigneur. Et c'est comme à Abraham, comme à Pierre, et comme à moi-même, et comme à tous ceux qui t'ont précédé, il dit, Rachel, toi, suis-moi. Andy, toi, suis-moi. Toi, je t'aime d'un amour éternel. Je connais ta vie. Je sais qui tu es, je sais où tu vas. Eh bien, toi, suis-moi. C'est cette parole qui est importante. Une parole personnalisée, une parole d'autorité qui nous amène à le connaître et à le suivre. Dans quel sens aussi? Parce que c'est bien de le suivre, mais où? Pour aller où? Où est-ce que nous allons aller? Eh bien là où Dieu nous appelle. Voyez-vous, c'est ça qui est formidable. C'est que nous faisons un partenariat avec le Seigneur. Quand on rentre dans cette dimension du baptême, on fait un partenariat avec Dieu qui nous appelle là où lui sait où il va nous mener. C'est ça, cette confiance. Ça s'appelle la foi. La foi, c'est une adhérence, une adhérence à l'amour de Dieu. On sait qu'il nous veut le meilleur pour nous. Il nous donne une mission et nous devons le suivre par la foi, par cette confiance que nous avons en lui, comme l'ont fait les disciples qui nous ont précédés. Et Jésus, eh bien, il nous envoie dans le monde. Mais il faut savoir que le monde commence chez soi, d'abord à Jérusalem. Ensuite en Samarie, vers le monde entier. Peut-être Andy, peut-être Rachel, tu seras envoyé à l'autre bout du monde, je ne sais pas. Mais il faut commencer par la famille. Il nous envoie vers une mission, la mission eh bien, de représenter son royaume, son règne, le règne de Dieu. Parce que Jésus est venu apporter le règne de Dieu. Il a dit le règne s'est approché. Dieu est venu apporter le règne au travers de Jésus, qui était un homme comme nous, fils de l'homme et en même temps fils de Dieu. Mais en tant que fils de l'homme, il a vécu le règne de Dieu sur la terre, il a modelé ce règne sur la terre. C'est une aventure fantastique, une aventure pleine de bénédictions. Une aventure que j'ai commencée il y a plus de 50 ans, moi-même avec le Seigneur, et je ne regrette absolument pas une seconde de l'avoir fait. C'est une aventure passionnante, et je sais qu'elle ne va pas s'arrêter, puisqu'elle continue, et elle ne s'arrête pas à la mort, parce que la mort n'est qu'un passage, n'est qu'une étape. Alors j'aimerais justement que Rachel et Andy, je vous montre cette histoire dans laquelle vous pénétrez aujourd'hui, et dans laquelle d'autres ont pénétré avant vous, et d'autres vont vous suivre, et qui nous dépasse. Cette histoire commence avec Abraham. Abraham qui a reçu une promesse, c'est celui d'être le père d'une multitude. Alors que quand il est mort, il n'y avait que son fils, Isaac, qui était là. Et il a été dans sa vie l'élément fondateur des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. Ce n'est pas trois patriarches qu'on connaît, qui étaient une famille, tout simplement. Au départ, c'était une famille. Alors que Dieu lui a dit, tu deviendras le père d'une multitude de nations. Et c'est ça, quand on est avec le Seigneur qui nous dépasse nous fait entrer dans quelque chose de plus grand, d'extraordinaire. Et nous pouvons simplement contempler ce devenir que nous verrons, parce que c'est une promesse du Seigneur, et le Seigneur, quand il fait une promesse, il la tient, parce que sa parole ne passe pas. Donc, Abraham, il a commencé, et il a fondé ce qu'on appelle l'Israël, avec Jacob, qui son nom a été changé quand il a lutté avec l'ange, et que le Seigneur lui a montré sa faiblesse, pour qu'il puisse se confier en Dieu. Et ensuite, c'est Moïse, vous connaissez Moïse, qui a reçu la loi pour établir la nation d'Israël. La nation d'Israël était établie sur la loi, sur le droit, sur une fondation constitutionnelle avec un droit, les 10 commandements. Et Israël devait porter l'espoir d'un Messie, d'un Sauveur qui allait venir au travers d'Israël. Jésus était juif. Il était porté justement au travers d'Abraham et de Moïse vers cette aventure que nous connaissons. Et à la croix, quand il est mort, après ce séjour sur la terre, il a établi l'Église. L'Église, elle est ouverte à toutes les nations, pas uniquement Israël, à toutes les nations. Et le Seigneur, justement, veut sauver toutes les nations, chacun de vous. Toi, il veut te sauver. Toi, il veut te donner la vie éternelle. Toi, il veut te donner un avenir, une espérance. Toi, il veut que tu sois heureux pour l'éternité et que tu aies un sens pour toujours. Et nous sommes dans la foi. Et nous revenons à Abraham. Abraham, il a cru par la foi, il n'y avait pas la loi. La loi, c'est un pédagogue pour nous montrer que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Mais la foi, c'est celle qui est une confiance totale dans le Seigneur. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici, Rachel et Andy. C'est que avec vous, nous sommes dans une histoire qui continue. Et nous attendons le retour de Jésus, le retour du Messie. Jésus va revenir, comme il est parti. Les disciples l'ont vu partir, il va revenir sur la terre. C'est la Bible qui nous l'enseigne. Et ce retour sera un retour en gloire. Non pas comme un petit bébé dans une crèche, mais en gloire. Il va revenir en gloire pour établir une réalité terrestre, pour montrer qu'on peut vivre sur la terre de manière juste, dans l'amour. Et ça s'appelle le millénium, ça veut pas dire que ça dure 1000 ans, c'est un grand nombre d'années, ça c'est du langage apocalyptique, mais un grand nombre d'années pour montrer que c'est possible, qu'on peut avoir un monarque, un roi, qui est parfait, et c'est Jésus, et il va le démontrer, avant d'une autre aventure qui est la réalité éternelle. C'est l'éternité où nous vivrons avec lui, éternellement. Où il y aura un nouveau ciel, de nouvelles terres. Il n'y aura plus tout ce que nous voyons aujourd'hui et dont nous sommes victimes, de cette imperfection, parce que nous n'aurons plus le même corps. Nous aurons le corps de Jésus qui nous donnera la possibilité de ne plus connaître ni la maladie, ni la mort. Cette aventure, toi et moi, Andy, Rachel, eh bien, nous sommes ici, vous voyez, à peu près dans cette période, hein, c'est pas à l'échelle, hein, mais où nous avons un passé, hein, où d'autres ont vécu la même chose que nous, hein, qui ont été appelés, et aujourd'hui, Dieu t'a appelé, Rachel, Dieu t'a appelé, on dit, à une vie nouvelle, à une dimension nouvelle, à rentrer dans cette grande aventure de la foi. Et il veut t'amener plus loin pour que tu puisses jouir de cela et en attendant porter des fruits. Vous participez à une aventure passionnante, passionnante. C'est la plus belle aventure que vous pouvez imaginer et qui dure pour l'éternité. Donc, ça commence par le baptême. Pour chacun de nous, ça commence par le baptême. C'est un engagement personnel, une alliance qu'on fait avec le Seigneur en disant, toi, tu as été fidèle, et bien moi, je veux maintenant rentrer dans cette fidélité, dans cette alliance avec toi. Et le baptême est suivi par la scène. Aujourd'hui, on peut la faire. On est encore un peu limite en domaine de la Covid, mais très rapidement, on va refaire la scène. Parce que la scène est une répétition du baptême, est un rappel que tous les croyants, tous ceux qui ont passé par les eaux du baptême, ils renouvellent leur engagement à travers du pain et du vin, à travers du corps de Christ, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et ça nous engage. Ça nous engage à nous remettre dans la repentance pour demander pardon parce que nous sommes pécheurs, nous restons pécheurs jusqu'à ce que nous ayons ce nouveau corps. Et la Sainte Seine nous rappelle que nous devons rester dans une attitude de repentance. Et c'est notre aventure personnelle qui est toute petite par rapport à cette grande aventure de l'humanité. Et nous devons porter du fruit parce que le fruit, c'est quelque chose que le Seigneur nous donne de porter. Nous ne faisons pas d'efforts pour le porter. Nous n'avons pas d'objectif de porter des fruits. Nous portons des fruits naturellement, simplement parce que nous avons des racines enracinées dans la parole et que nous avons la tête dans le ciel avec le Saint-Esprit qui nous aide et qui nous donne de porter du fruit à sa gloire, parce que nous voulons glorifier le Seigneur et nous sommes des êtres qui glorifions le Seigneur. Et nous avons un avenir, un devenir, une espérance. Et cette espérance, c'est comme je le disais tout à l'heure, eh bien, déjà de voir, de vivre avec le Seigneur, de gouverner avec lui, d'administrer sur la terre et ensuite dans la réalité éternelle. C'est une espérance. C'est pas un espoir, c'est une espérance. L'espoir, c'est j'espère, mais je ne sais pas. L'espérance, c'est une certitude. L'espérance de la gloire, l'espérance, c'est quelque chose qui nous est donné. Et c'est pour cela que les chrétiens, les premiers chrétiens, allaient jusqu'à la mort, n'avaient pas peur de la mort. Parce que les gens de leur temps voulaient leur extirper quelque chose, de renier leur foi. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Parce que vous savez que c'est vrai, et que vous le vivrez, et que vous pouvez aller jusqu'au martyre. Rachel, on dit. Le Seigneur vous dit, comme il a dit à Abraham, comme il a dit à Pierre, comme il a dit à chacun de nous, tu deviendras une source de bénédiction. Tu porteras des fruits pour la gloire. Si tu ne portes pas de fruits, il faut se poser la question, est-ce que je suis dans l'humilité? Et très souvent, quand nous revenons à nous-mêmes en tant que chrétiens, il y a beaucoup de problèmes au niveau du christianisme qui a un contre-témoignage. Et bien sûr, les gens l'utilisent pour dire « Ah, je ne veux pas être chrétien », etc. Oui, ça ne change rien. Ce n'est pas parce que les autres font des erreurs que vous allez louper d'entrer dans la vie éternelle. Ne faites pas ce genre d'erreur. Le Seigneur, lui, il vous donne un avenir, une espérance. Et ne regardez pas aux erreurs que les chrétiens peuvent faire. Avec Dieu, nous deviendrons ce qu'il a prévu pour nous. Et non seulement pour nous bénir, mais pour bénir d'autres. Ça s'appelle l'amour. Nous devenons une source de bénédiction. Le chrétien doit devenir une source de bénédiction, de bénir les autres, que ça déborde sur les autres. Et c'est ça le sens de ce que Rachel et Andy vont faire ce matin. Rachel et Andy, Dieu vous appelle à le suivre. Suis-moi. Et dernier mot que je voudrais vous dire, soyez passionnés de Jésus. Soyez passionnés de Jésus. Parce que Jésus a été passionné pour vous. Et il était tellement passionné pour vous parce qu'il t'a déjà connu. lorsqu'il a vécu, il connaît les choses à l'avance, il l'a connu, il savait qui tu étais. Eh bien, il a donné sa vie sur la croix pour toi. Et c'est pour tes péchés qu'il est mort. Et c'est pour ça, lorsque tu vas passer, juste avant d'être plongé dans les eaux du baptême, tu dis, est-ce que tu reconnais que Jésus est mort pour tes péchés? Et c'est quand on reconnaît ses péchés qu'on fait l'expérience de cette relation d'amour. Parce qu'on est libéré, libéré de nos péchés, libéré de cette culpabilité qui pèse sur nous, qui est un poids extrêmement lourd. Moi, quand j'ai fait cette expérience, il y a plus de 50 ans, eh bien, il y a un poids qui est levé. Et c'est ce poids qui est le poids du péché, de la culpabilité. Soyez passionnés pour Jésus, parce que lui, il est passionné pour vous. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci pour la passion que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu l'as manifestée à la croix. Et tu veux, Seigneur, que cette passion puisse être partagée à d'autres, Seigneur. Que cette passion puisse se manifester, Seigneur, à d'autres, au travers de Rachel et d'Andy, qui vont entrer dans cette nuée de témoins, Seigneur, qui va être un moyen de témoigner de toi. Et Seigneur, ils vont le faire maintenant, avant de prendre, Seigneur, cet engagement du baptême. Et nous te les remettons, Père, et nous te remercions pour leur témoignage. Te louons dans le nom de Jésus. Amen. Amen.